particulièrement ravie d'être parmi vous ce matin. D'abord parce que c'est l'occasion de vous rencontrer et que je suis persuadée que le travail que nous faisons les uns les autres est un travail qui repose sur la mutualisation de ce que nous faisons et sur le partage des expériences. Et sans cela, je crois que l'école maternelle, l'école de manière générale, ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Alors je vous propose de développer mon propos selon un certain nombre d'axes que je vais vous détailler, mais bien évidemment je suis là aussi pour répondre à vos questions. C'est dire que j'ai prévu un fil que je vais dérouler, mais que je suis à votre disposition pour réagir à vos questions, puisque l'objectif de cette rencontre de ce matin, c'est quand même de faire en sorte que vous repartiez avec des choses qui ont un petit peu bougé, au moins des questions et peut-être aussi quelques éléments de réponse. Alors le début de mon exposé en fait s'ouvre sur une trace qui est celle d'un doigt d'enfant hein, dans une matière qui est le sable là pour le coup, et je l'ai choisi cette image de manière un peu emblématique pour dire plusieurs choses, pour dire qu'en définitive, c'est parce que nous avons des mains, et depuis que l'homme a des mains, il utilise ses mains pour faire, c'est parce que nous avons des mains que nous faisons pour penser. Il est important de continuer à développer tout ce qui est activité qui utilise le corps, bien sûr, chez les petits-enfants, c'est très important, mais qui petit à petit va permettre d'acquérir une dextérité manuelle qui permettra de développer ce geste de l'écriture qui signe plusieurs choses. Un, l'appartenance à l'humanité. C'est parce que nous avons la capacité de transformer ce qu'on pense en langage communicable que nous sommes une espèce, j'allais dire, supérieure, hein, que nous sommes hommes. Et puis c'est parce que les enfants apprennent à écrire à l'école qu'ils acquièrent une capacité de pouvoir mettre en forme leur propre pensée et que ce faisant, ils ne se jouent pas que de la trace graphique, mais bien de l'apprendre à penser aussi. Je fais partie des personnes qui pensent que, depuis quelques années maintenant, on a abandonné l'apprentissage du geste de l'écriture. Ça ne s'enseigne plus beaucoup à l'école, sauf à de rares exceptions près, heureusement. Ça ne s'enseigne plus du tout dans les lieux de préparation au métier de l'enseignement, dans le premier degré. Donc on laisse la constitution de ce geste-là, j'allais dire à l'initiative des enfants, sauf à rectifier en fait un certain nombre de points, on en parlera ensemble. Je pense que ça n'est pas une bonne chose. Parce que ce geste-là est un geste technique qui relève d'un apprentissage technique et spécifique. Et seule l'école peut le faire aujourd'hui. Alors, mon propos va nous permettre, en définitive, de développer un certain nombre d'idées. Je voudrais avec vous, d'abord, faire un peu l'état des lieux de l'école maternelle aujourd'hui. Parce qu'elle a un statut, une histoire, une culture, et qu'aujourd'hui, sans doute, elle est confrontée à de nouveaux défis. Je voudrais aussi développer ce que j'ai amorcé avec vous il y a quelques secondes sur cet apprentissage long et difficile. Quel apprentissage de l'écriture, du geste graphique, mais aussi de l'activité. Je préciserai avec vous qu'est-ce que c'est qu'apprendre à écrire? Qu'est-ce que c'est qu'écrire pour un jeune enfant apprenti? Et qu'est-ce que c'est qu'apprendre à écrire pour cet enfant-là? Qu'est-ce que ça mobilise comme compétences et comme réseau de capacités complexes qui sont à, j'allais dire, combiner pour pouvoir réussir ce geste de l'écriture et réussir à écrire? Pourquoi apprendre à écrire? On parlera un petit peu de l'école maternelle, mais aussi du cycle 2, hein, puisque ça commence quand même selon des stratégies adaptées à l'école maternelle. Je vous parlerai de la leçon d'écriture, entre guillemets, en grande section, puisque c'est quelque chose qui est préconisé comme étant une manière particulière d'appréhender et d'apprendre ce geste d'écriture. qui est d'ailleurs présente dans ce document que vous connaissez qui s'appelle le langage à l'école maternelle, qui est le document d'accompagnement des programmes de 2002, qui va vraisemblablement être réédité en phase avec les programmes de 2008, mais bon, il y a des choses changées, il y en a d'autres qui sont les mêmes. Et puis on terminera en fait ensemble sur ce que c'est que développer la culture de l'écrit et l'écriture à l'école maternelle et en quoi l'école maternelle, qui est un lieu de culture, peut effectivement construire des apprentissages fondamentaux dans ce domaine-là. Tracer des mots, c'est pas simplement reproduire des séquences graphiques, c'est surtout faire en sorte qu'à travers la nomination, l'enfant puisse appréhender le monde, apprendre à le nommer et apprendre en fait à le connaître en se l'appropriant. L'école maternelle aujourd'hui, sans doute connaît-elle aujourd'hui, par le biais de l'appellation des missions que des inspecteurs ont reçues en France depuis 2 ans, sans doute connaît-elle aujourd'hui une relance de sa mission préélémentaire. Qui est indiqué avec l'indication par le ministère d'une mission de prévention de l'illettrisme. Je vais vous expliquer un petit peu de quoi il est question dans cette mission-là et comment, en tout état de cause, moi je l'ai perçu dans le travail qu'il y a à faire au sein des départements. Ce nouvel élan donné en 2008 avec cette double appellation, école préélémentaire, hein, mission préélémentaire, c'est-à-dire mission de préparation. On est sur le socle, on est sur les fondements du socle, et mission de prévention du lettrisme, qui, en définitive, l'amène à s'occuper avec plus de soin, en particulier des enfants qui ont besoin de ces étayages pour rentrer dans la lecture-écriture avec de bons éléments, avec de bons outils. Elle doit jouer pleinement son rôle, j'allais dire, dans la continuité de ce qu'elle est. L'école maternelle est en France une exception. Elle est dans le monde une exception. C'est le premier maillon, en fait, du parcours scolaire. Et on scolarise en France 99,99%, 98% des enfants de 3 ans. On est à peu près les seuls au monde à faire ça. Quand on se promène dans les pays étrangers, moi j'ai l'occasion d'aller un peu travailler avec Berlin, un peu travailler avec le Maroc, et qu'on leur explique quel est le choix que nous avons fait en France d'accueil de la petite enfance, on leur dit, tous les parents savent qu'à l'âge de 3 ans, leurs jeunes enfants vont pouvoir être accueillis dans des conditions adaptées. L'école maternelle est d'abord l'école de l'accueil de tous les enfants, et qu'ils vont rentrer très vite dans une prise en charge éducative qui va être organisée par des programmes. Alors là, quand on dit ce mot-là, vous avez des programmes à l'école maternelle pour les enfants de 3 ans, ça leur paraît un petit peu fou. Des programmes qui sont organisés en progressivité sur 3 années pour constituer un parcours de compétences stabilisé à la fin de ces 3 années. On est à peu près les seuls à scolariser la petite enfance dans ces conditions-là, avec ces exigences-là. Cela dit, on s'appuie sur des traditions ancestrales d'accueil de la petite enfance. Les premières années où on commence à parler d'accueil de la petite enfance en France, c'est 1830-1847, les salles d'asile, qui sont les précurseurs, en fait, enfin, qui sont les structures qui vont préparer l'installation de l'école maternelle en 1883, l'école maternelle étant intégrée au bloc de l'école primaire. L'école maternelle fait partie du projet républicain de l'école de la Troisième République, elle est toujours là. Elle fait toujours partie du projet républicain de cette école d'État que nous avons. Elle est gratuite. Elle est accessible à tous. Donc, elle doit jouer pleinement son rôle, toujours, dans la construction de la personnalité des enfants. Elle les accueille de manière personnalisée. Dans les programmes de 2002, il y avait un petit paragraphe qui disait accueillir l'enfant et l'accompagner en fait dans son entrée dans l'école. Accueillir chacun des enfants, pris ce petit mot-là. Ça veut dire que chaque enfant doit pouvoir trouver à l'école maternelle les conditions favorables à son plein épanouissement, selon ce qu'il est. Hassan, Maria, Elisabeth, Mounia, chacun son histoire, chacun sa personnalité, ils doivent, ces petits, trouver à l'école maternelle les conditions pour pouvoir se sentir heureux d'être là, d'être avec les autres, et heureux d'apprendre. Elle doit jouer pleinement son rôle dans l'acquisition de savoirs et de compétences qui sont des compétences premières, donc des vraies compétences. Ce n'est pas des pré-apprentissages à l'école maternelle. Ce n'est pas une école des pré-acquis ou des pré-requis. Donc, quelquefois, on voit ça dans certains manuels pédagogiques, pré-acquis mathématiques, non. Tous les apprentissages, quels qu'ils soient, dans tous les domaines, dans les 6 domaines, sont des apprentissages à part entière, qui sont spécifiques de l'âge des enfants qui leur permettent de se développer, ces apprentissages. Ça veut dire que quand on travaille sur le nombre, par exemple, à l'école maternelle, on travaille sur la capacité, en fait, à dénombrer des quantités. On va vraiment travailler sur des compétences mathématiques, au sens scientifique du terme. Il y a une vraie didactique de l'école maternelle, mais on va utiliser ce que vous faites tous les jours, les médiations adaptées à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, pour faire en sorte, 1, qu'ils manipulent, 2, qu'ils ressentent, qu'ils aient un certain nombre d'expériences, 3, qu'elles soient verbalisées ou verbalisables par les enfants, par l'enfant, par les enfants, et par vous. Qu'elles soient reprises en écho, parce que ce sont vos verbalisations à vous qui vont donner du sens sur ce que l'enfant fait, qui va se transformer pour lui par l'explicitation de l'activité en apprentissage. Vous voyez là, en 5 points, j'ai décrit ce que c'était qu'un acte d'enseignement à l'école maternelle, qui est un enseignement à part entière. Ce n'est pas un enseignement d'élémentaire qu'on adapte aux petits. L'autre jour, je discutais avec une jeune étudiante de M2 qui me disait, en définitive, moi j'ai fait mes stages pour l'instant en élémentaire, mais la maternelle, ça ne me posera pas trop de problèmes, ils sont petits. J'ai dit au contraire, vous allez voir, c'est très compliqué. Voilà, ça va être beaucoup plus compliqué pour vous, hein, parce qu'il va falloir que vous compreniez ce qu'il y a dans la tête de ces petits et comment vous pouvez les aider en fait à travailler et à apprendre, hein, c'est pas que de l'activité. Et puis il va falloir que vous puissiez accompagner chacun de ces enfants en ayant une vigilance sur le groupe, parce que c'est une pédagogie du groupe, l'école maternelle, et en ayant un regard sur chacun de ces enfants. Vous allez voir, c'est compliqué comme c'est fatigant. Je ne l'ai pas revu depuis. Le domaine des programmes de 2008 qui a été rajouté, c'est le apprendre à devenir élève. Il est important celui-là. Et je fais le lien avec la mission préélémentaire de tout à l'heure. Pourquoi le devenir élève est un domaine nouveau dans les programmes de 2008? Premier élément, c'est un domaine qui a absorbé le vivre ensemble. Le vivre ensemble est toujours présent dans les programmes de 2008, mais ce qui s'est rajouté, c'est la nécessité pour les enfants, pour ces enfants, de comprendre en définitive comment on met en œuvre des activités à l'école maternelle et pourquoi, pour apprendre quoi, et petit à petit, à s'approprier les codes de l'école pour faire en sorte, par exemple, que quand la maîtresse donne une consigne à tout le groupe, vous êtes sur le tapis le matin, vous savez, vous adressez, dire à la cantonade. La cantonade, c'est votre masse indistincte. Il y a certains moments, on a besoin de cette cantonade-là, parce que ça constitue le vivre ensemble à l'école maternelle. C'est une modalité de constitution du collectif. Et que vous allez donner des consignes, il va falloir qu'ils comprennent, tous ces enfants, que cette consigne-là, ce n'est pas au groupe qu'elle s'adresse. C'est aussi à chacun d'entre eux, et qu'ils doivent en faire quelque chose. C'est un exemple très rapide. Apprendre à devenir élève, c'est aussi apprendre à comprendre ce que l'enseignant ou l'enseignante veut mettre en œuvre et ce qui est attendu de l'enfant, selon les situations. C'est décoder tous les implicites de l'école. Quand on observe des petits de CP entre le 8 septembre et le 20 septembre, on s'aperçoit en définitive que pour certains enfants, ils n'ont pas construit de repères par rapport au fonctionnement de la classe. Ils sont un petit peu perdus. Bon, après, ça se rattrape, si vous voulez. Mais moi, je trouve toujours un petit peu dommage qu'on ne prépare pas mieux, à la fin de la grande section, les enfants de l'école maternelle, les élèves de l'école maternelle, à transformer leur métier, entre guillemets, d'élèves qu'ils ont construit à l'école maternelle et à l'adapter aux nouvelles exigences de l'école élémentaire. Par exemple, il est intéressant en grande section de donner du matériel individuel, quand vous avez des boîtes, hein, mais qu'ils aient à gérer leur propre matériel. C'est, mine de rien, ça paraît un petit détail de rien du tout. Et quand à l'école maternelle, on a toujours eu l'habitude d'aller se servir dans du matériel collectif, on ne gère pas son matériel personnel. Et on n'est pas attentif aux crayons, au rangement des crayons, etc. D'autant plus que les rangements se font des fois par responsabilité tournante ou par petit coup de main de l'Axel. Gérer son matériel personnel, ça veut dire être sûr que j'ai tous mes outils à disposition au moment où l'activité va démarrer. L'école maternelle doit jouer pleinement son rôle dans la lutte contre les inégalités sociales. Et là, pour le coup, nous sommes confrontés quand même depuis quelques années à une scolarisation d'enfants qui sont de plus en plus en précarité. Sûrement, vous connaissez ça aussi. Hein, moi, j'observe essentiellement ça sur le milieu très urbain de la grande ville parisienne. Le creusement des inégalités sociales est patent. Depuis 5 ou 6 ans, nous avons des enfants qui souffrent de maux de pauvreté à l'école, alors que 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, ces situations avaient plus ou moins disparu, plus ou moins, sauf cas exceptionnel. À nouveau, l'école se présente comme une institution qui doit, en définitive, en priorité, faire en sorte que tous les publics les plus pauvres, tous les publics les plus éloignés en fait des codes scolaires et de la culture puissent bénéficier en fait des apports de l'école. Elle doit réduire les écarts entre les enfants et notamment s'occuper des enfants les plus fragiles. C'est dans ce sens que les aides personnalisées, le ministre l'a rappelé lors d'un séminaire au mois de novembre l'année dernière. Vous avez des documents édités sur Eduscol qui le rappellent. Par exemple, les aides personnalisées concernent tous les enfants d'école maternelle, y compris les enfants de petite section. Alors, peut-être on reparlera de ça ensemble, c'est-à-dire quels enfants, pourquoi, dans quelles conditions. En tout état de cause, l'aide personnalisée, c'est cette modalité particulière d'apport pédagogique à destination d'enfants qui sont repérés dans des groupes de besoins et à qui on va offrir une situation d'enseignement privilégié avec une présence étroite de l'enseignant, avec une disponibilité très importante, notamment au plan langagier, et avec la capacité pour l'enseignant, puisqu'il est très proche de ses élèves à ce moment-là, 4 ou 5, de traiter en direct ce que fait l'enfant, ce qu'il dit ou ce qu'il ne dit pas sur les questionnements, ce qu'il fait ou ce qu'il a du mal à faire, pour en fait étayer ses activités et faire en sorte qu'il puisse apprendre dans de meilleures conditions. Notre école maternelle doit garantir les apprentissages fondamentaux, bien sûr. Depuis de nombreuses années, c'est bien le langage qui est au cœur des apprentissages. Le langage à la fois comme objet d'apprentissage, c'est-à-dire apprendre à parler, mais aussi le langage comme vecteur des apprentissages. À chaque fois que je suis dans une situation, par exemple, si l'enseignant installe une situation d'expérience scientifique avec des plantations, certaines étant arrosées, certaines étant à la lumière et d'autres pas, toutes les activités scientifiques, toutes les observations scientifiques qui vont se faire au cours de cette expérience vont être comprises par les élèves parce qu'on va les parler. C'est le fameux langage qui permet d'accompagner l'action et qui permet de comprendre par les mots, par la mise en mots et la mise en phrase, les phénomènes que nous observons. Donc c'est à la fois un objet d'apprentissage, mais c'est aussi un élément essentiel pour apprendre plein d'autres choses. C'est une compétence associée. C'est vrai sur toute la scolarité. Mais à l'école maternelle, c'est encore plus vrai parce que ce sont vraiment des petits apprentis parleurs, hein, nos enfants. Donc ils ont énormément de progrès, ils vont faire énormément de progrès sur le temps de la scolarité maternelle. C'est là, en définitive, que se constitue le plus gros des compétences langagières. Donc garantir les apprentissages fondamentaux, et puis donc dans la circulaire de 2008, on demande à l'école maternelle, par le biais de ce bilan de compétences, qui est obligatoire, hein, c'est la circulaire de 2008, on demande à l'école maternelle de justifier pour chacun des enfants qu'elle a scolarisé pendant 3 ans des compétences acquises dans un certain nombre de domaines qui sont prédictives du palier 1 du socle commun de la fin du cycle 2. Donc c'est le jalon que l'école maternelle va poser pour montrer en définitive que chacun des enfants fait un parcours d'apprentissage et qu'il aborde l'année 2 du cycle 2 avec un certain nombre d'acquis. Ce bilan de compétences, il vous sert à 3 choses. Il vous sert à 3 choses. D'abord, il vous sert à rendre compte aux familles, en fin de scolarité maternelle, de ce qui s'est passé à l'école maternelle, pour chacun des enfants. Donc, vous rendez compte aux familles. Obligation est faite à l'école depuis 1990, de rendre compte aux familles. Ce bilan de compétences va vous servir aussi à identifier les compétences qui restent fragiles. Et contrairement à un livret d'évaluation, le bilan de compétences, il va dire oui ou il va dire non. Il ne va pas se situer entre les deux. Si c'est oui, il n'y a pas de problème. Ça passe comme ça. Et la maîtresse de CP pourra s'appuyer là-dessus pour pouvoir continuer le parcours. Si c'est non, à vous de noter les préconisations ou les remarques que vous faites qui permettront à l'enseignant de CP de s'appuyer sur votre expertise de l'état des lieux des compétences à l'école maternelle pour savoir quelle priorité il va donner à ses enfants. Par exemple, ce bilan de compétences peut servir le maître de CP en tout début d'année à mettre en priorité des aides personnalisées à destination de ses enfants qui ont des compétences fragiles dans certains, dans tel ou tel domaine. Je sais que c'est lourd, hein. J'en ai beaucoup discuté avec les enseignants de ma circonscription, j'ai une petite circonscription sur Paris, hein. J'ai 5 écoles élémentaires et 5 écoles maternelles, d'autant plus que maintenant il y a 3 évaluations à faire. Bon, on garde ça pour la fin, sinon on va se fâcher. C'est lourd, mais c'est nécessaire pour que les enfants puissent appréhender très clairement leur parcours, que les parents puissent dire « oui, notre école maternelle », que les parents plébiscitent, hein. C'est une école maternelle qui est soutenue par les parents. C'est les premiers à dire, surtout n'y touchons pas, hein. Parce qu'elle est importante pour eux, et puis bon, c'est un système de scolarisation extrêmement efficace. Les parents puissent dire, voilà ce que l'école maternelle a produit comme plus-value pour nos enfants, plus-value cognitive, culturelle, développementale, plus-value en termes de plaisir d'apprendre, de rapport au savoir, et importante parce que vous, vous savez, en définitive, en équipe de maîtres, ce que vous avez réalisé comme objectif. Pour chacun des enfants que vous allez passer en cycle 2 à l'école élémentaire, bah vous savez le travail que vous avez fait parce que vous en avez les preuves. Donc c'est drôlement intéressant d'objectiver ça, pour tout le monde. Alors, ça veut dire qu'il nous faut des points de vigilance, hein, pour vous, pour nous. Moi, ça, je l'utilise beaucoup avec les jeunes enseignants, hein, les PES qu'on a accompagnés dans l'entrée dans le métier cette année, et les N2 qu'on va accompagner pour la prochaine rentrée, et qu'on a accompagnés sur les stages. Souvent, je leur dis, méfiez-vous, vous mettez beaucoup d'activités en route, hein, c'est-à-dire qu'il y a des ateliers qui tournent, les enfants manipulent, hein. Il y a des activités de construction, il y a des activités de manipulation, il y a des activités de papier, fiche, papier, crayon, donc ça on en reparlera tout à l'heure aussi. Pour qu'on en parle, mais est-ce que les enfants apprennent? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont appris? Par exemple, manipulation autour des de collections d'animaux de couleur qu'il faut en fait trier et classer dans des boîtes de couleurs avec des critères, hein, avec des gommettes, avec des quantités d'œufs, donc un nombre d'œufs, un chiffre qui est écrit sur chacune des boîtes. Donc, activité traditionnelle que vous connaissez parfaitement. On donne la consigne, c'est une jeune que j'ai vue il y a 10 jours, hein. On donne la consigne et elle explique aux enfants qu'effectivement, il faut qu'ils distribuent dans chacune des boîtes autant d'animaux que ce qu'il y a écrit sur la gommette, que le chiffre écrit, qui est un chiffre. Hein. Autant d'animaux que le chiffre écrit. Si on parle de chiffres, c'est un nombre. Mais quand c'est une écriture, c'est un chiffre. Déjà, nombre et chiffre, elle ne savait pas trop bien. Je dis, si vous voulez que les enfants s'y repèrent, en mathématiques, c'est compliqué quand même, il faut que vous sachiez de quoi vous parlez. Hein. Donc il faut que vous ayez en tête, au niveau de la didactique des mathématiques, c'est-à-dire quel savoir savant j'ai en tête, qu'est-ce que je veux qu'ils comprennent, hein, et comment je vais m'y prendre au plan pédagogique pour faire en sorte qu'ils puissent comprendre et apprendre. Si on veut que ce ne soit pas que des activités de tri, si on veut que les élèves puissent dire quand on les interroge, oui, j'ai appris à compter jusqu'à 4, jusqu'à 5, jusqu'à 6. Si on veut qu'ils disent ça, il faut les accompagner dans cette activité-là. C'est-à-dire qu'il faut que l'enseignant donne l'enjeu de l'activité. Et qu'on compte, on dénombre, on vérifie, et qu'on accompagne l'activité de l'enfant par une élucidation des enjeux cognitifs. C'est à cette condition-là qu'ils apprennent. Il faut que vous mettiez, il faut que les enseignants mettent en œuvre des situations d'enseignement, mais il faut aussi regarder si les enfants apprennent et ce qu'ils apprennent. Il faut bien, quand on structure les apprentissages de l'école maternelle, bien sûr, proposer des activités, mais distinguer votre point de vue d'enseignant, c'est-à-dire, je leur donne des tris d'objets à faire, je veux qu'ils fassent des dénombrements, je veux qu'ils fassent en fait complètent des collections d'œufs et qu'ils seront en capacité de me dire, ben, il y a 4 chevaux rouges, il y a 5 tigres jaunes et il y a 6 zèbres noirs, et qu'ils seront en capacité en fait d'utiliser une abstraction mathématique. Mon point de vue à moi, je le connais, mon objectif à moi, je le connais, mais il faut que je puisse accompagner l'activité de l'enfant pour que ça se transforme en apprentissage pour lui. Donc j'ai des choses à dire, j'ai des choses à faire. Par exemple, à certains moments, il faut dire attends, Michael, recompte le nombre de chevaux que tu as mis dans cette boîte. Vérifie. Là, on est dans une situation où on ne fait pas que de l'activité. Votre intervention permet à l'enfant de vérifier son activité et de répondre à la consigne. On est bien dans les mathématiques. Il faut aussi faire en sorte que la pédagogie invisible, vous savez, tous les implicites de la classe, puissent être rendus explicites pour tous les enfants. Et les enfants qui sont éloignés du milieu traditionnel, proche de l'école maternelle, qui est un milieu moyen, un milieu de famille, j'allais dire, lambda, française, je ne sais pas si vous êtes confronté à des enfants d'origine étrangère ici, pour tous les autres, il faut souvent réexpliquer et expliciter ce qui ne pose pas de problème. Pour les premiers qui, quand la consigne est donnée, partent tout de suite en activité. Vous les voyez prendre les crayons, commencer à travailler, etc. Pour les autres, il faut peut-être reformuler la consigne et dire, ben voilà, donc donner un exemple. Voilà ce que je te demande de faire. Voilà ce que tu vas apprendre, tu vas aller chercher les crayons. Donc là, vous voyez, on développe les activités qui sont attendues pour répondre à la consigne. Tous les implicites de l'école, pour ces enfants-là, il faut les expliciter. Repérer les différences entre les élèves et y répondre, hein, ça veut dire que globalement, vous allez traiter votre classe un petit peu comme le faisait, comme le disait Mme Colina il y a quelques années, pour les enfants qui apprennent à parler, il y a 3 groupes. Vous avez les bons parleurs, c'est votre premier cercle. C'est toujours ceux qui sont avec vous, qui répondent à vos questions spontanément, qui sont toujours dans l'activité, qui ont bien compris ce que vous proposez, qui sont un peu les moteurs de la classe. Vous avez le deuxième cercle, c'est le cercle des enfants qui sont là, physiquement, ils sont même présents, il y a du non-verbal, ils acquiescent, ils réagissent sur les autres. Hein? S'il y en a un qui dit, un bon parleur qui dit, tu vois ma maman hier, etc., etc., il y en a un autre qui va dire, bah, moi aussi ma maman. Donc, par imitation, hein, donc, ils sont accrochés par le meilleur parleur, mais bon, ils ont un petit peu de mal quand même, et ils sont souvent dans des interventions ponctuelles. Vous leur demandez de développer leurs propos, ah oui, tu parles de ta maman, mais en définitive, ça se passait où ce que tu me racontes? Là, ils vont avoir du mal à aller au-delà du premier propos. Intervenant ponctuel, souvent, dans le collectif, hein, quand on est sur le tapis. Et puis, le troisième cercle, c'est le cercle qui nous intéresse, qui est intéressé par l'internet. C'est le cercle des enfants les plus éloignés de nos discours, de notre parler, de notre culture, de la culture de l'école. Et, j'allais dire, de tous les implicites, en fait, relationnels et sociaux. Et ce sont ces enfants-là qu'il faut aller chercher. En priorité. Les autres, laissez-les de côté. Votre premier cercle, vous allez l'oublier. Le deuxième, vous allez faire attention. Vous allez quand même, petit à petit, leur faire confiance et les autonomiser. Surtout si vous utilisez votre premier cercle comme étant un cercle d'étayage. Hein, quand vous faites des groupes d'enfants hétérogènes, par exemple dans le coin poupée, si vous voulez travailler sur le langage, autour de la poupée qui est malade, vous allez mettre des enfants très bons parleurs avec des enfants moins bons parleurs. Pour que le vocabulaire, le lexique, quand on ouvre la valise, médecin, le lexique propre à la seringue, le thermomètre, au stéthoscope, etc., vos bons parleurs puissent le réintroduire. Repérer, analyser la nature des difficultés des élèves et mettre en place les réponses adaptées, ça, c'est le statut des aides personnalisées. Mais au-delà des aides personnalisées, c'est bien utiliser à l'école maternelle aussi les compétences spécifiques des maîtres de réseau pour vous aider à observer. Pour vous aider à observer. Alors, l'écriture. Ceci étant dit pour l'école maternelle. Et on va garder en tête tout ça. Hein, les enfants les plus fragiles, le repérage des difficultés, le fait qu'il faille didactiser un certain nombre de situations et donc la déployer en différentes séquences d'action pour pouvoir la faire comprendre aux élèves et qu'ils se l'approprient. Rentrons en fait dans le vif de notre sujet, c'est-à-dire l'écriture. Apprendre à écrire, c'est une compétence des programmes de 2008, c'était déjà une compétence des programmes de 2002, c'était déjà dans les programmes de 95. Avant, il y avait des programmes avant 95 ? Pour l'école maternelle, avant 1995, il y avait des programmes ? Oui. Bon, non, il n'y en avait pas. Il y avait des préconisations. Et les préconisations, les orientations, n'avaient pas le même statut que les programmes. Aujourd'hui, donc après la loi d'orientation de 89, hein, il y a eu la mise en place des cycles, vous vous souvenez. En 95, on s'est dit qu'il faut aussi avoir des programmes, c'est-à-dire des contenus à enseigner. Avant 95, les enseignants avaient des pistes générales d'action. Depuis 95, ils ont une feuille de route. Votre contrat de travail, il est là. Les 6 domaines, vous devez les enseigner. Vous devez aussi faire en sorte que les enfants s'approprient les compétences qui sont liées aux 6 domaines. Donc votre feuille de route professionnelle, c'est les programmes. L'entrée dans l'écriture, disent les programmes de 2008, doit s'appuyer sur un certain nombre de compétences qu'on va développer ailleurs que dans le geste d'écriture. Ça veut dire qu'en définitive, l'apprentissage de l'écriture, ça commence dès la petite section. Comment ? Enfin, on verra. Que disent les programmes ? Les activités graphiques, c'est-à-dire des enchaînements de lignes simples, courbes, continues. Donc ce que disent les programmes, c'est, en définitive, si on veut aider les enfants à rentrer dans l'écriture, il faut leur apprendre à enchaîner des lignes simples, des lignes courbes et des lignes continues. Elles reposent sur des compétences particulières de perception des caractéristiques d'élèves. Donc, juste avant, on a parlé de compétences motrices, hein, graphiques motrices. Là, on va parler de compétences perceptives. Pour apprendre à écrire, il faut aussi savoir percevoir et analyser, c'est-à-dire exercer son acuité visuelle. Donc pour pouvoir apprendre à écrire, il faut une main et des yeux. Des yeux, un regard, et une fonction visuelle développée, une discrimination visuelle développée. Là encore, ça commence à la petite section, la capacité à discerner un certain nombre d'éléments et à les nommer. L'activité graphique, disent les programmes, n'est pas que la préparation à l'écriture. C'est-à-dire que l'activité graphique, dès la petite section, elle va permettre, en définitive, de construire ce qu'on appelle la motricité fine. La motricité fine qui va s'appuyer, en fait, sur la maturité globale et générale d'un jeune enfant qui se développe, qui grandit, et elle va s'appuyer sur un ajustement progressif de la motricité générale. Ça veut dire qu'apprendre le geste de l'écriture, ça se fait aussi dans la salle de motricité. L'activité graphique n'est pas que la préparation à l'écriture parce qu'elle permet de développer le schéma corporel général de l'enfant, de construire son image de lui-même. Image spéculaire, hein, dans le miroir, mais aussi image vis-à-vis de l'autre, en lien avec le corps des autres et dans un espace donné. Pour apprendre à lire et écrire, il faut être repéré dans l'espace et repéré dans le temps. Petit à petit, l'enfant va segmenter sa motricité et il va maîtriser en fait les segments fins du bout des doigts, parce que pour écrire, en fait, il faut être très stable au niveau du corps général et très mobile au niveau du bout des doigts. Alors, l'activité graphique, dans les programmes de 2002 mais dans les programmes de 2008, elle est définie comme une activité qui est celle de reproduction de motifs graphiques pour développer ce geste adapté et efficace qui permet d'utiliser un outil pour reproduire, en fait, de manière relativement fidèle, des assemblages de lignes de forme, on va dire de signes. Les activités graphiques, ce sont des activités qui permettent, en fait, d'ajuster son geste selon une organisation graphique. Ce sont les arts déco, hein, les activités graphiques. Le support des activités graphiques, ce sont, en fait, tout ce qui est activité, enfin, registre culturel des arts décoratifs. Dans les programmes de 2002 et de 2008, on vous parle d'aller chercher, en fait, des modèles graphiques qu'on a repérés, par exemple, sur des poteries marocaines, qu'on va en fait demander aux enfants de reproduire pour créer leur propre organisation de lignes et de surfaces. On va chercher les signes graphiques dans des œuvres comme une œuvre de Klimt qui est très graphique avec des arabesques. On va se promener autour de l'école et on va aller chercher, on va faire ce qu'on appelle la chasse aux lignes. On va chercher par le biais de petits cadres en carton ou en utilisant l'appareil photo numérique. On va chercher des organisations graphiques dans la nature, j'en avais plein. Photographier des feuilles, par exemple, ou des carrelages, ou un motif de papier peint. Et à partir de ça, les enfants vont se l'approprier pour eux-mêmes créer leur propre organisation graphique. On est quand même sur une activité culturelle. Plus que la pluie sur le parapluie de la petite fille, ou l'herbe sous le pied de l'escargot. C'est plus intéressant quand même. On est sur quelque chose de culturel qui développe, vous l'avez bien compris, l'activité de perception et d'analyse visuelle. Si on demande aux enfants d'observer pour reproduire, on développe beaucoup leur activité d'analyse visuelle. Les programmes disent, je suis toujours sur les programmes, hein, et puis je brode un peu sur les programmes, l'écriture cursive est proposée à tous les enfants dès qu'ils en sont capables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on développera le geste aisé de l'écriture cursive à partir du moment où vous aurez observé des indicateurs de maturation et de maturité gestuelle et visuelle chez vos élèves. Grosso modo, c'est au cours de la grande section. Puisqu'à la fin de la grande section, il y a une compétence qui est exigée à la fin de l'école maternelle, hein, qui est écrire en écriture cursive son prénom. Au moins ça, ça doit être réalisé. Et c'est son prénom sans modèle. Son prénom avec une image mentale qui est construite. Donc avec une séquentialisation de la cursive qui est là. C'est-à-dire que je pense à mon prénom, je m'appelle Mathieu, je sais que ça commence par une grande lettre majuscule, on en parlera là, par une lettre majuscule, et qu'après je vais faire un petit truc, c'est pas une double, c'est un A, hein, mais ça commence par une petite ligature, après ça tourne comme un rond, mais sauf que c'est comme un O, mais sauf que c'est pas un O, parce que derrière il y a la petite canne qui vient s'appuyer sur le rond, etc., etc. Ça se parle l'écriture, faut la parler. Il faut la transformer en fait, qu'elle soit appréhendable par les enfants. Donc au cours de la grande section, vous allez voir s'ils ont pour vous acquis cette maturité du contrôle du geste sur une capacité à faire grosso modo sans qu'il y ait de maladresse, une succession de boucles hautes et de boucles courtes en suivant deux gestes, un geste de rotation devant, mais ça peut être aussi un geste de frein et de rotation en arrière, et un geste de translation, c'est-à-dire que c'est une rotation qui va se déplacer de gauche et de droite, en tout cas dans notre écriture. Les petits Marocains, quand ils apprennent à écrire, ils apprennent ça dans l'autre sens, ils travaillent de la droite vers la gauche. Apprendre à écrire, c'est contrôler tout ça. Si ça, c'est pas contrôlable par vos élèves, avec un support féminin, même si on apprend un certain nombre à écrire un certain nombre de mots sans qu'il y ait de repères au tout début, hein. Quand on arrive sur le geste lié à l'écriture cursive pour des élèves de grande section, il faut des repères, y compris sur l'espace, sur la surface, un point, une ligne, etc. Donc l'écriture cursive fait l'objet d'un enseignement guidé. C'est ce que dit Gilles Bras. Enseignement guidé. Pour installer les premières habitudes et favoriser la qualité des tracés et les angles du geste. Et si les tracés ne sont pas bons, il faut les corriger. Voilà ce que disent les programmes. À la fin de l'école maternelle, l'enfant est capable de reconnaître et écrire la plupart des lettres de l'alphabet. Copier en écriture cursive, sous la conduite de l'enseignant, des petits mots simples dont les correspondances en lettres et en sons étudiées, par exemple. Si j'écris la maison, sous le dessin que j'ai fait, parce que j'ai dessiné une maison, ben je sais que j'écris la maison. Je recopie un mot, qui est un mot avec des séquences graphiques, un petit mot de deux éléments, LA, une grande boucle, et après un petit rond avec une canne derrière, et maison. Hein, je sais comment se compose maison, mais je sais que j'écris ce mot-là, et je sais ce qu'il veut dire. Donc si je recopie ces mots-là, je suis en capacité de les lire. Écrire en écriture cursive son prénom, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, on a fait quelques constats sur l'apprentissage de l'écriture. Hein. Je m'appuie sur le rapport de l'Inspection Générale de 2006 qui disait, en définitive, mais toutes les personnes qui passent du temps dans le fond des classes le voient, même au collège, hein, j'ai eu l'occasion d'inspecter au collège et au lycée quand j'étais inspectrice à SH il y a quelques années, et pour certains élèves, en 6e de collège, c'est une catastrophe. On a l'impression qu'ils sont manchots, hein, les élèves. Hein. Ils ont les petits pouces qui fonctionnent très très bien. Et ils sont très doués sur les claviers. Mais malheureusement, cette main, ils en ont perdu l'usage. Alors, moi, je ne veux pas revenir en arrière sur une école du passé qui n'a pas d'avenir. Hein. Je pense qu'il est important aujourd'hui, en intégrant les technologies numériques à l'école, dans ce qu'elles ont de favorable aux apprentissages actuels, il faut qu'on maintienne le rapport à l'écriture manuelle et le rapport au livre. Je vous donne ma conviction, le rapport à l'objet. On est des hommes, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'on a un corps qu'on apprend, et plus on est petit, plus c'est vrai, on apprend par corps quand on est petit, après nous ne sommes plus que des purs esprits, on n'a plus besoin de nos mains, je pense que pour l'instant on en a encore besoin, mais en tout état de cause, le manuel, le développement de l'intelligence manuelle doit être l'objet d'une attention particulière à l'école primaire, maternelle et élémentaire. Sinon, on aura des élèves, effectivement, qui ne seront plus du tout écrits. Enfin, tout à l'heure, vous parliez de la promotion de l'ENA. J'ai été ravie de travailler avec les ENAR pendant 2 ans. Mais j'ai été aussi extrêmement atterrée de constater que pour certains, ils n'étaient pas très bons sur le domaine de l'orthographe. Mais vraiment, vraiment. Et puis pour certains, ils avaient du mal aussi à avoir une belle écriture manuelle. Ils avaient une espèce de maladresse manuelle que je trouvais dommage. Et, alors bon, après. support numérique possible et imaginable. Et je pense qu'on a perdu quelque chose si on perd le rapport à la main. En tout cas, ils ont des difficultés à écrire, nos élèves. Tenue de crayon, tenue du corps, traces graphiques, vitesse d'écriture, tout ça pose problème. Et plus on arrive dans les grandes classes, plus les profs s'appuient sur la lisibilité d'une trace et la vitesse d'écriture. Hein. Parce que quand ils prennent des notes au collège et au lycée, je peux vous assurer que ça va fils ça. Hein. Et pour certains élèves, moi j'ai eu un fils, hein, c'était le cas, hein. Un fils qui a eu quelques difficultés pour apprendre à écrire avec sa main, parce qu'il est allé trop vite sur l'ordinateur, il avait des prises de notes de cours qui étaient très problématiques. Il était toujours obligé d'aller chercher les prises de notes de ses copains. Dans les cahiers, les classeurs des élèves, il y a de moins en moins d'écriture et de travaux écrits. Bien sûr, il y a des fiches photocopiées avec des mots qui sont écrits. Mais tant qu'on ne travaille pas sur l'écriture et l'écriture d'un texte au sens global du terme, eh ben on rate une partie de l'écrit. Et ce faisant, on rate une partie de la mise en mémoire de cet écrit. Par exemple, quand on copie une poésie en CE1, la première mise en mémoire, c'est la copie graphique. On va proposer le texte à l'enfant, on lui donne le texte sous la forme d'un texte calligraphié et photocopié, mais le fait qu'il saisisse chacun des mots, le corbeau, et que je ralentis effectivement ma graphie, et par la main, je commence à construire une première image mentale des mots que j'écris, que je trace. Le fait qu'il copie comme ça, élément par élément, va déjà lui permettre d'avoir en mémoire, j'espère, corporelle, des choses qu'il va devoir mémoriser dans sa mémoire sémantique. Donc plus ils écrivent, mieux c'est. Mieux ils savent écrire, hein, mais mieux ils savent mémoriser aussi. En formation, on n'apprend plus aux enseignants à enseigner l'écriture, donc à apprendre à écrire, ça, dont acte. Hein. Et moins on écrit, moins on sait écrire et moins on en a envie. Et l'écart se creuse dans la relation à l'écrit. Vous prenez une classe de cahier. Je l'ai fait en classe de 5e. Une classe de cahier, vous les mettez face à vous. Vous savez repérer par les traces graphiques, la qualité des traces graphiques, même l'esthétique des traces graphiques, quels sont les élèves très scolaires qui n'ont pas de soucis et quels sont les élèves qui sont un peu plus en situation difficile, d'inattention, de rythme, de cadence, de compréhension, etc., etc. Un petit bonhomme qui tient son crayon et qui est très attentif à ce qu'il fait. Même s'il a tenu le crayon, il y aurait des choses à dire. Mais bon, globalement, quand même, la prise, elle est pas mal. Globalement, la prise, elle est pas mal. Si on avait tous les enfants qui prenaient le crayon comme ça, avec un crayon qui repose en fait dans l'appui entre le pouce et l'index, qui est un appui essentiel pour pouvoir faire ce geste-là. Essentiel, parce que c'est un outil qu'on prend. S'ils avaient tous cette tenue-là, on n'aurait pas trop de soucis. Qu'est-ce que c'est qu'écrire ? Bah, outre le fait que c'est une trace graphique qui reproduit un modèle, que ce soit un modèle que j'ai sous le nez ou un modèle que j'ai en image mentale, c'est une tâche difficile et complexe parce qu'elle va combiner plein de savoir-faire. Donc c'est une tâche où il y a une surcharge cognitive pour l'enfant. Quand vous regardez des enfants écrire, souvent, ils transpirent, ils ont mal, ils tirent la langue, ils sont fatigués. D'ailleurs, avant de commencer à écrire, c'est bien de faire une petite relaxation. C'est bien de bien s'asseoir sur sa chaise, se dire est-ce que je respire. C'est un truc physique, l'écriture. Tous les calligraphes vous le diront. Hein. Et je suis prêt physiquement à me lancer dans cette activité parce qu'elle va me demander beaucoup d'énergie. Donc, c'est des traces et des tracés. Donc, c'est déjà manipuler un outil sur un support. C'est combiner des habiletés gestuelles, de motricité fine, et des contrôles visuels, on l'a dit tout à l'heure. C'est savoir organiser les séquences graphiques parce qu'on les a apprises, ces séquences graphiques. C'est se déplacer sur un support, que ce soit un cahier, ou une grande feuille, ou un tableau. Horizontal, vertical, la position du corps n'est pas la même. C'est intéressant pour vos élèves de travailler sur des supports variables. Et des surfaces, ce n'est pas la même chose d'écrire au tableau avec une craie, qui est un minéral, sur une surface qui est rugueuse. Hein. La peinture à tableau, c'est une peinture spécifique. C'est pas la même chose au plan corporel que de calligraphier, en fait, un petit mot avec une plume qu'on va chercher, qu'on va tremper dans l'encre, sur un cahier Clairefontaine. Je fais pas de pub pour Clairefontaine parce que ça m'est un peu égal, le support, mais en tout état de cause, Clairefontaine offre une qualité de papier qui est très intéressante quand on commence à travailler avec des outils un peu choisis. Si on travaille sur un mauvais papier à Paris, j'ai fait le choix d'acheter des cahiers avec du papier recyclé, c'est une catastrophe. Alors, ils ont fait ce choix-là parce que le marché, hein, c'est un énorme marché, hein, les cahiers de fourniture scolaire à Paris. Et les cahiers des évêques, c'est lamentable. Parce que ça accroche. Parce que ça absorbe, parce que c'est du buvard, parce que c'est pas beau. Les outils. Alors avec nos élèves à l'école maternelle, par exemple sur les activités graphiques, on va les inciter à prendre d'autres outils, à faire des expériences avec d'autres supports et d'autres outils. Par exemple, à faire des reproductions de motifs graphiques en utilisant des craies grasses. C'est pas le même geste, c'est pas la même tenue. En utilisant des feutres fins, en utilisant le crayon à mine graphite, qui est intéressant aussi, parce que c'est minéral. Soignez, c'est une parenthèse, soignez la qualité de vos outils. N'achetez pas les crayons au supermarché, ils sont pas bons. Il faut acheter de la marque. Parce que si vous voulez que vos élèves écrivent bien, qu'ils aient plaisir à bien écrire et qu'ils soient contents de ce qu'ils font, il faut des bons outils. Donc il faut investir. Et vous le retrouverez, hein. Dans la durée, vous le retrouverez. Les bonnes marques, ben, c'est celles qu'on trouve dans les congrès de la GEM, hein. Les Faber-Castell, les Lira, c'est des vraies mines. C'est des vraies mines minérales. Donc vous avez des belles couleurs. Les crayons de couleur, ça, ils ne font pas des couleurs toniques. Laissez un peu de côté les feutres. De toute façon, les feutres, ils les utilisent à la maison, les élèves, hein, les enfants. Développez plutôt les autres outils qu'ils ne vont trouver qu'à l'école. C'est donc s'adapter à l'outil, aux outils, hein, selon la trace et le résultat qu'on veut obtenir. C'est un contrôle moteur et gestuel, c'est un contrôle visuel et c'est un contrôle du code. C'est-à-dire qu'il va falloir que je regarde qu'effectivement, si je m'appelle Mathieu, ben mon prénom ça commence par le L majuscule, après c'est le A, après c'est les deux T, le H, le I et le E. Ça veut dire que ça, je suis en capacité de le contrôler petit à petit. Des habiletés proches pour trois familles d'activités. Donc là, je vais développer ce que je vous ai dit tout à l'heure. Perception, attention visuelle, corps global, gestes contrôlés, traces maîtrisées, gestion de l'outil et du support. Trois familles d'activités qui vont développer ça. Mais chacune sa spécificité. Le dessin. Pour pouvoir apprendre à écrire, il faut dessiner. Et le dessin commence dès la petite section. Le dessin comme enseignement de l'école maternelle a été introduit en 2002. Avant, on parlait du dessin comme activité libre des enfants et comme langage. Mais en 2002, on a parlé du dessin dans le cadre des activités d'art visuel. Parce que le dessin est une capacité de perception et de représentation qui permet en fait de symboliser, de mettre en forme. C'est plus qu'un langage. Donc ça sert à quoi d'apprendre à dessiner à l'école maternelle? Ben, ça sert à développer les fonctions plastiques et symboliques du dessin. Un dessin, ça interprète. Hein, quand on regarde, par exemple, du dessin, du croquis d'après nature. Les enseignants qui font du dessin dans la section font ça en ce moment. Hein, une classe qui travaille là-dessus. Ils vont se promener dans les squares parisiens. Ils s'assoient devant quelque chose qu'ils observent, toujours avec ce fameux petit cadre, vous voyez. Et la maîtresse dit, qu'est-ce que tu vois dans ton petit cadre? Le cadre délimite un espace. Donc c'est intéressant pour observer. Et l'enfant doit en fait, ils ont des petites plaquettes de bois, des feuilles de dessin, ils ont des craies grasses. Je ne sais pas si c'est des craies grasses, c'est des tipiki, je crois. Enfin bon, c'est un crayon de couleur qui fait une trace assez grasse quand même. Mais ce n'est pas des pastels. Et donc les enfants doivent reproduire ce qu'ils observent. Mais en reproduisant, ils interprètent. C'est évident. Donc, en définitive, le dessin, ça sert à observer, interpréter. C'est aussi une création de dessin. Ça peut être un agencement d'un certain nombre de lignes, de formes, de figures. Je vous renvoie au support des œuvres des artistes. C'est très intéressant de travailler avec des œuvres d'artistes. Allez voir la fonction du dessin, par exemple, chez Gauguin, ou chez Van Gogh, ou chez Picasso, bien sûr. Tous les grands artistes ont beaucoup dessiné. Il a une fonction de préparation. C'est-à-dire que le dessin permet une première saisie de la réalité, une première saisie de la création, et trace les grandes lignes d'un projet. C'est intéressant d'aller voir ça, d'ailleurs. Si vous travaillez, par exemple, sur un Van Gogh, je ne me souviens plus du nom du tableau, la mémoire me fait défaut, mais ce sont des arbres, des cyprès dans un paysage provençal. Comment vous dites, vous avez dit ça ? Peut-être bien. Peut-être bien. Les arbres sont très graphiques. Et donc, il y a toute une série, en fait, de dessins préparatoires. C'est intéressant de montrer aux enfants comment lui, il a représenté, en fait, ces arbres-là. Et comment, quand il a mis en couleur, il a gardé le graphisme, mais il a rajouté la couleur. On va voir des arbres dans l'environnement, dans votre nature, et vous observez ces arbres, et vous demandez aux enfants, en fait, de s'inspirer, on ne peut pas de la manière de l'un, mais de s'inspirer de la démarche du peintre pour eux-mêmes représenter les arbres, en ayant une recherche graphique, par exemple, sur des formes de branches, des formes de feuilles. Le dessin, ça sert à développer la fonction de narration, ça peut raconter des choses, ça peut développer l'imaginaire de création, c'est-à-dire j'invente une bête extraordinaire qui va avoir, je ne sais pas, des ailes de dragon, les griffes du tigre, etc. Donc le dessin me permettra de mettre en forme quelque chose que j'ai dans ma tête. Ça permet l'expression aussi. J'exprime des choses par le dessin. Le dessin est un langage. Mais des choses s'apprennent dans le dessin. Il faut vous donner des techniques. Il faut vous apporter des techniques de peintre et d'artiste. Des techniques d'expert. Mais ce faisant, hein, quand on va travailler par exemple la courbure des arbres, comme Van Gogh, a pu les représenter, et qu'on va travailler en fait les branches, l'agencement des branches, on va travailler le geste, bien sûr, la motricité. Les activités graphiques, elles ont une dominante graphique esthétique. C'est du jeu graphique. L'objectif des activités graphiques, c'est en définitive d'arriver à ajuster son geste pour reproduire des formes et créer de l'agencement esthétique, décoratif. C'est de la découpe. Mais là encore, ça permettra en fait de développer la motricité globale et fine. L'écriture, troisième type d'activité, elle a, elle, une dominante graphique codée. Je code l'écriture. Je ne vais pas pouvoir faire les O comme je veux, les A comme je veux, les T comme je veux. Il faut que j'apprenne des normes. Autant dans le dessin, je peux imaginer créer. Autant dans les activités graphiques, je peux m'inspirer d'un répertoire de signes, par exemple, pour créer ma propre organisation, mais je vais répéter des signes. Donc je serai un petit peu dans la répétition d'imitation pour ajuster, m'exercer. Autant quand je vais écrire, il faut que je sois conforme au modèle et à la norme. Donc la part d'inventivité, zéro. Ok. Sémiotique parce que ça fait du sens. Si j'écris, par exemple, le petit mot « la tortue » sous mon dessin de la tortue, je mets en relation une chose représentée, un animal, et le nom qui la parle, cette chose-là, qui en parle. Donc je travaille sur le rapport signifiant-signifié. C'est la fonction des imagiers, comme on appelle. On produit des séquences linguistiques, donc il y a un rapport à la langue, il y a un rapport au sens, et on applique un codage écrit qu'on va apprendre. C'est un codage qui s'apprend. Là, pour le coup, forme et sens sont combinés. Le support est utilisé selon des règles fixes que la maîtresse donne, que l'enseignant donne. Et l'enjeu, c'est communiquer à l'autre. Si j'ai écrit sous mon dessin le petit mot la tortue, si quelqu'un rentre dans la classe et dit « Tiens, quel est cet étrange animal ?» Parce que la tortue ressemble à une tortue, mais pourrait être autre chose. Au-dessous, l'enfant pourra dire « Mais regarde, j'ai écrit son nom. Ah oui, c'est une tortue. » Elle est jolie. Donc ça veut dire que j'ai accès au sens de manière stable et de manière sûre. Le dessin donne pas du sens. Le dessin s'interprète. L'écrit donne du sens. Apprendre à écrire, par contre, une petite pause. Et pour apprendre à écrire, ben, combiner, coordonner le mouvement de translation, on en a parlé, de cursivité, ça monte et ça descend, ça fait des hauts et des bas, ça descend sous la ligne, ça monte sous la ligne, on soulève le crayon pour poser des petites barrotées, des points sur les i, donc tout ça, c'est extrêmement codifié, ah oui, hein. Des mouvements de rotation qui exigent des ajustements, des freinages dans la cursivité. Ça veut dire que c'est pas comme ça que j'écris. Hein. C'est ça monte, ça redescend, je freine, je ralentis, je remonte, etc. C'est au niveau de l'épaule, il faut se remettre hein, dans le geste d'écriture. Hein. Quand on se remet sur des grandes surfaces, on fait ce geste-là, qu'on le caricature, hein. On l'agrandit, on s'aperçoit en définitive de ce qu'on mobilise. Imaginez pour les enfants grands comme ça, quand ils arrivent au CP, il faut qu'ils sachent. Ce sont deux mouvements paradoxaux que l'enfant doit réussir à conduire. En plus, ce ne sont pas des mouvements coordonnés de manière harmonieuse, ils se contredisent. Translation, cursivité, rotation, tout ça, ça se compose. C'est possible d'apprendre à écrire si j'ai des appuis fermes, je le disais tout à l'heure. Je suis bien assis, j'ai mes deux fesses sur la chaise et mes deux pieds par terre. Si les enfants écrivent avec les pieds qui se baladent comme ça sous la chaise, ils n'ont pas d'assise. Comment voulez-vous qu'ils donnent de l'assise à leur écriture? Si mon corps est bien positionné, mon écriture va tenir debout. Il y a une relation directe entre eux, mon corps et ce que j'écris. Les calligraphes, ça, les calligraphes, ils s'installent dans une position qui est une position codée, normée, avec une mise en condition. Il y a tout un rituel de la calligraphie dans toutes les cultures où la calligraphie et l'aspect plastique de l'écriture, culture arabe, culture moyen-orientale, culture orientale. Nous, on ne l'a pas, on ne l'a plus. On l'avait dans l'école du 19e siècle. Mon arrière-grand-mère expliquait à ma mère que quand les enfants, quand les élèves passaient le certificat d'études et qu'ils ne l'avaient pas, au moins, ils avaient acquis une belle écriture. Bon, les enfants ne faisaient pas grand-chose, mais au moins la fierté de l'enseignante, la maîtresse, à ce moment-là, c'est que j'avais une belle écriture. C'est un objectif de l'école, hein, ça se retrouve dans les textes. Hein, bon. Autre lieu, autre temps. Avant-bras en équilibre solide, les deux avant-bras, les deux bras avec votre main là, les deux avant-bras, pour pouvoir avoir une certaine souplesse au bout des mains, à partir des articulations. Et c'est possible à bien apprendre, enfin à apprendre à écrire et bien écrire, si le modèle à reproduire est parfaitement perçu par l'enfant. Alors, on va faire ensemble une focalisation sur ce qu'on a appelé la leçon d'écriture, avec tous les guillemets. Hein. C'est quelque chose, c'est une appellation qui est reprise de ce qui se faisait auparavant et qui était préconisée par les textes de l'école d'avant, hein, d'autrefois. Qui n'existe plus en tant que tel. Donc, la démarche consiste en définitive à permettre aux élèves d'observer ce que sont les différentes étapes de la graphie cursive pour pouvoir les comprendre, se les approprier et écrire à leur tour. Donc, si vous voulez, en grande section, quand vous sentez que vos élèves sont en capacité de développer cette compétence-là sans qu'il y ait de malaise, sans qu'il y ait de gêne importante occasionnée, c'est-à-dire qu'ils ont en fait bien préparé l'ensemble des capacités nécessaires et que leur corps et leur maturité générale sont prêts. Vous allez les mettre en fait face au tableau, avec des petites tables qui sont alignées, de sorte que les élèves puissent tous voir ce qui se passe sous leurs yeux. Ça, c'est important. Le premier critère d'installation, c'est la visibilité de tous les élèves de ce qui se passe sous leurs yeux. On est au tableau, ça veut dire qu'on écrit, que l'enseignant écrit sur un plan verticale. Donc on va montrer aux élèves en définitive comment on va écrire le mot et comment la main va faire pour pouvoir obtenir la trace graphique. Donc il est face au support vertical ou face au tableau paperboard. Quelquefois dans les conférences on me vient paperboard et je fais la leçon. Mais en tout état de cause, c'est pas grave. En tout état de cause, il est 2-3 quarts, ça veut dire qu'il va montrer ce qu'il fait, il faut dégager le bras, il faut dégager le corps, et en même temps, il va regarder ses élèves. Il faut vraiment qu'il les ait, qu'il fasse l'aller-retour entre eux, ce qu'il fait et ce qu'ils observent. Il est bien vu de tous les élèves, et sur le tableau, ça c'est très important, il y a un repère visuel de départ. Quand vous écrivez la date, par exemple, en cursif sous les yeux de vos élèves, même en petite section, il faut écrire sur un support ligné, de sorte qu'ils puissent comprendre qu'en définitive, s'il n'y a pas un appui, les mots ne peuvent pas tenir debout. C'est très important. On n'écrit pas comme ça, dans une espèce de... Si vous voulez qu'ils vous voient en train d'écrire, c'est-à-dire qu'ils observent et qu'ils décomposent un geste normé, il faut qu'il y ait un appui. Donc là, le repère visuel, c'est le petit rond, c'est le petit point, qui est là, ça veut dire qu'on va partir du petit point pour savoir où on pose le crayon. Il faut que le crayon sache où il va en fait commencer son tracé ou commencer sa danse sur le support. Le support est contrasté, ça veut dire qu'il faut absolument que vous vérifiez la luminosité. Si vous avez un mauvais éclairage et que les enfants ne voient pas le contraste, c'est embêtant, d'autant plus qu'ils n'ont pas la même perception visuelle que nous, les petits, puisque en fait, ils vont continuer à développer en fait ce qu'on appelle la myélinisation, et donc ils ne perçoivent pas les choses de la même manière que nous. Donc il faut vraiment qu'il y ait un très bon contraste. Par exemple, écrire sur les Velleda, sur les tableaux blancs avec des Velleda qui sont jamais très contrastés, c'est pas bon. En plus, il n'y a pas de c'est pas intéressant de Velleda, c'est un truc très, très... ça glisse, c'est... Il faut que ça accroche l'écriture. Il faut que ça accroche l'écriture, donc le tableau ou le papier, avec un bon feutre. Si vous êtes sur un papier, il faut acheter un bon feutre qui est biseauté. C'est mieux d'acheter un feutre biseauté. Il accroche l'écriture, il y a un effet de résistance entre les deux matérialités, le bout de l'outil et le support. La matière du crayon et la réaction de la surface. Parce que la surface, elle va réagir. Quand on fait travailler les enfants en calligraphie, c'est très intéressant d'ailleurs de faire des ateliers de calligraphie au CP. Dans un projet d'école, au CP, et là c'était dans les programmes de 2002, c'est intéressant de passer par une approche plastique et artistique de la lettre. Parce que ça leur permet en définitive de s'exercer sur un objectif qui est un objectif de faire beau. Alors, quand on travaille, on fait travailler les enfants en calligraphie, on s'aperçoit en définitive qu'ils sentent le fait que la surface a une manière particulière d'absorber ou pas soit la mine graphite, soit l'encre, bien sûr si on travaille à l'encre, et on varie les surfaces pour qu'ils puissent adapter en fait leur geste à la qualité de la surface. Par exemple, le calligraphe avec lequel on avait travaillé il y a quelques années, il s'appelle Henri Méroux, qui a été associé au travail qui a été fait dans les classes, faisait travailler les élèves pour leur permettre en fait, de constater ce qui se passait sur des buvards, sur des surfaces qui absorbaient automatiquement l'encre. Et on s'était rendu compte qu'en fait, les enfants allégeaient leur gestes parce que plus ils les appuyaient, plus il y avait d'encre. Et plus la lettre était englobée dans une tâche, en fait, on n'arrivait plus à la récupérer. La trace écrite nette est le produit de leur rencontre. La trace écrite, en fait, c'est le produit de la rencontre entre un bout de crayon, un bout d'outil et une surface qui réagit. Si les lignes sont tracées sur le tableau, c'est-à-dire que si vous travaillez entre deux guides, par exemple, si vous écrivez le nom de la date, et lundi, mercredi, avec un mercredi, alors, majuscule, pas majuscule, pas majuscule, je pense. Mercredi, en définitive, ce petit mot-là, on est en grande section, on va l'écrire entre le guide des deux lignes. Donc il y a une ligne, certes, mais il y a un guide qui va donner en fait la hauteur des lettres, il y a les petites lettres et les grandes lettres. Et il y a des lettres qui sont dans le guide, et il y a des lettres qui vont en dessous du guide. Donc ça veut dire qu'il y a exactement les mêmes repères visuels sur le support que vous donnez à vos élèves. C'est pareil. Votre tableau et le support des élèves, la même chose. Ils partent des mêmes points. Le geste est amplifié, c'est-à-dire qu'on va peut-être d'ailleurs d'abord le montrer dans l'espace. Je vais commencer par le L, donc on peut le faire dans l'espace. L, avec les trois points. Le geste est amplifié, et quand il est fait sur le tableau, il est ralenti et il est parlé. Je commence le M, et je dis M, je ne dis pas me, parce que me ça n'existe pas. Il y a deux réalités dans la langue. Il y a la réalité graphique, c'est le nom de la lettre, et la réalité sonore, c'est le nom du son. Et il n'y a que ça qu'on doit dire. Quand j'entends des jeunes qui disent « il a écrit un me », je sais quoi, un me, il y a M, c'est la lettre, il y a M, c'est le son, et s'il y a A derrière, ça fait ma, s'il y a I derrière, ça fait mi. C'est vrai que c'est compliqué, les consonnes sans voyelle, ça ne sonne pas. La voyelle fait sonner la consonne. Mais en tout état de cause, il ne faut pas rajouter quelque chose qui n'existe pas dans la langue. Apprendre à lire et à écrire, c'est apprendre à coder de manière spécifique une langue qui est complexe en français, 36 sons, 26 lettres. Ça veut dire qu'il va y avoir des combinaisons complexes. En anglais, c'est moins compliqué. Elle est plus phonologique, la langue. En français, on est dans une langue extrêmement complexe dont l'orthographe n'est pas transparente. Par exemple, un chat, déjà, il y a deux sons. Ch, A. Ben, pour faire ch, il y a deux lettres, on dit grave, ben, le C et le H. Et dans KO, il ne va pas faire la même chose. Dans le petit mot KO, s'il faisait toujours ch, il n'y aurait pas de problème, mais dans KO, il va faire autre chose. Et A, eh ben, oui, ben, A, ben, il y a une petite lettre au bout qu'on peut expliquer aux enfants. En leur disant, elle a un sens, cette petite lettre, en fait. C'est un graphème du lexique, ça signe l'appartenance de ce petit mot à une famille. Château, chaton, chatounet, chatière, etc. Donc ça, vous pouvez le dire à vos élèves. Semer, ça sera toujours quelque chose. Vous n'allez pas le systématiser, vous donner de la connaissance. Ça va faire sens ou pas? Mais au cycle 2 et au cycle 3, quand ils vont rentrer dans le dur de l'orthographe, ils se souviendront de ce que vous avez fait à l'école maternelle. Ils se souviennent toujours de ce que vous avez fait à l'école maternelle. Pourquoi? Parce qu'ils sont à un moment du développement de leur personne où la mémoire hypersensorielle, hyper émotionnelle, ils sont curieux, ils sont ouverts à tout, ils ont une perception auditive qui ne sera jamais aussi fine que ça, puisqu'elle va commencer à régresser à partir de 5 ans, 6 ans. Oui, non, quoi ? Tout ce qui se fait, c'est du potentiel qui ne demande qu'à être réactivé. C'est pour ça que l'école maternelle est l'école la plus importante du système éducatif. C'est pour ça que l'école maternelle doit être une école de culture, d'expérience, de mise en situation riche, qui permette aux élèves de s'approprier tout ça, parce que ça, c'est un viatique pour la suite de la scolarité. Pour la personne, hein, pour la suite de la scolarité aussi. Donc, amplifié, ralenti, pour laisser le temps de l'observation. Je commence les trois petits ponts du M. Et là, je ralentis mon geste, je monte, je boucle et je fais le E. Et j'écris M. Là, je m'arrête. C'est-à-dire que je segmente. Donc, dans un premier temps, on apprend à segmenter. Dans un deuxième temps, on apprendra en fait à lever le crayon là où c'est nécessaire. Il faudra que vous décidiez de lever le crayon. C'est vous qui allez les décider. Et vous allez les donner aux élèves. Parce qu'il y a des manières de faire. Alors, il y a X méthodes pour apprendre à écrire. Allez voir dans les méthodes du primaire, vous verrez, il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Il y en a une qui s'appelle la boîte à lettres chez Nathan, mais qui n'existe plus, dommage, parce qu'elle n'était pas trop mal. Elle avait été faite, cette méthode d'apprentissage de l'écriture, par les deux lauréates du concours d'écriture qui avait été lancé en 2002 par le ministère. Le ministère avait dit, en fait, les modèles d'écriture qu'on a à l'école primaire française, c'est des modèles qui datent d'avant 50, qui datent de l'époque où on écrivait à la plume et au crayon, à la plume et à l'encre, pardon, sur des cahiers lisses, mais qui ne sont pas adaptés, en fait, au stylo bille, c'est-à-dire aux outils actuels des élèves. Donc, le ministère avait lancé un concours pour créer deux modèles d'écriture qui permettent en fait d'obtenir, avec les outils d'aujourd'hui, une graphie plus, beaucoup plus souple et plus, on va dire, plus aisée, plus rapide, enfin bon. Un peu simplifié, on va le dire comme ça, hein. Les modèles d'écriture, les deux modèles lauréats, simplifient un certain nombre de volutes qui caractérisent quand même notre écriture héritière des écritures manuscrites esthétiques du 19e siècle. Hein. Et ben, ces deux modèles d'écriture ont été choisis, ils ont été récompensés, on devait les numériser et les envoyer dans les écoles, ça n'a jamais été fait. Donc les deux lauréates de ce concours, hein, si vous allez voir sur internet, vous pourrez trouver. On a une qui s'appelle Héloïse Tissot et l'autre elle s'appelle Marion Androus. Donc c'était deux spécialistes de l'écriture, hein, qui avaient fait l'école Étienne pour l'une et qui étaient calligraphes de formation pour l'autre. Elles ont écrit, en fait une des deux a écrit une méthode d'apprentissage de l'écriture à la suite de ce concours-là. Elle avait publié ça chez Nathan, mais je pense qu'elle n'existe plus. Quoi qu'il en soit, faites votre propre méthode. Inspirez-vous d'une méthode qui vous plaît et faites votre propre méthode. C'est-à-dire donnez à vos élèves les manières d'écrire qui vous correspondent le mieux et qui semblent les mieux adaptées à vos élèves. La lettre tracée donc est décrite selon la succession des gestes que l'enseignant réalise. Et là, vous utilisez tous les petits mots, comme les ponts, les coupes, qu'est-ce qu'on utilise encore, les cales, etc., etc., parlez vos lettres. De manière un petit peu anecdotique, j'ai relevé, moi, dans les méthodes d'apprentissage de l'écriture, le vocabulaire qui est utilisé. Par exemple, on parle de crochet, on parle de courbe, on parle de lettres bouclées, de lettres à queue, de lettres à tête, d'ovales avec plein à droite, ça c'était quand on faisait des pleins et des lignes avec la plume. On parle de saillie de la majuscule, on parle de volute finale, vous voyez. On peut effectivement construire son propre vocabulaire, l'idée étant que pour les élèves, il faut que ça fasse image, une image qui correspond à ce qu'on trace. Donc ça évoque pour eux quelque chose qui fait sens. Le geste est verbalisé. Donc je monte à partir de la ligne, je dis tout ça. Je monte à partir de la ligne, à partir du point, et de la ligne, du point plutôt, c'est oublié. Je boucle vers l'arrière et je redescends tout de suite. Ça, c'est le L. Je boucle vers l'arrière, je monte, je boucle vers l'arrière et je redescends tout de suite. Je remonte, c'est le L. Je remonte un petit peu et je termine par une petite boucle encore vers l'arrière. Je soulève ma main, voilà le E pour écrire le petit mot LE. On pratique de la même manière pour chacun des mots de la séquence d'écriture et il faut des pauses de manière régulière. C'était le chat. Alors, sachant que quand vous commencez un mot, il y a ce qu'on appelle l'entrée du mot, hein, donc le petit truc qui vient devant, je cherche le mot, l'accroche, oui, c'est un nom, mais je ne m'en souviens plus, de sorte que la lettre, le C, soit appuyée sur la ligne du dessous. Hein. Vous ne pouvez pas le faire uniquement en commençant en haut et en tournant. Il faut vraiment l'amorcer. C'est l'amorce. L'amorce. Et quand on est entre deux lettres, on est sur la ligature. C'est-à-dire que le C, si on le fait tout seul, il y aura l'amorce et la courbe. Mais si je le fais avec un A, que j'écris K, il y aura la courbe, mais je continue avec la ligature pour pouvoir accrocher le A. Et ça, je le dis. J'accroche le A. Ça évite que les enfants, en fait, segmentent les lettres. Séquence après séquence. Il faut vraiment que ce soit une cursivité. Ça s'accroche. C'est quelque chose de lié. La cursivité, c'est quelque chose de lié. Sachant que l'écriture, c'est évidemment le substitut graphique du langage, hein, c'est-à-dire que, en définitive, c'est un langage mis en forme qui tient dans le temps et dans l'espace. Ce qui s'écrit se conserve. La mémoire de l'écriture est très importante. Dans une société comme la nôtre, où on stimule beaucoup les enfants par l'image, faisant l'hypothèse qu'ils s'approprient les images, ce qu'ils font, ils les subissent. Allez voir les travaux de Serge Tisseron, il vous racontera effectivement comment l'image s'adresse en fait directement à l'imaginaire des enfants sans passer par l'intellection, par la compréhension. Parce qu'elle rentre directement par la rétine et elle va imprimer tout ce qu'il y a par derrière. Alors que quand on est face à de l'écrit, il se passe autre chose. Il y a une mise en forme en fait de sens qui se fait. Par exemple, quand vous prenez un livre, c'est une nouvelle histoire. Vous dites à vos élèves, je vais vous lire l'histoire de la petite poule rousse. Et vous ne montrez pas les images. Les enfants vont, à partir de l'écrit que vous mettez en voix, ils vont construire un certain nombre d'images personnelles et se représenter pour eux-mêmes déjà les éléments de l'histoire. Donc vous faites une première saisie de sens via, si je puis dire, la rencontre avec l'imaginaire des enfants, de chacun des enfants. Ça veut dire que les enfants ne vont pas fonctionner de la même manière. Selon qu'ils appartiennent à tel milieu, qu'on leur lit déjà des histoires, ça veut dire bien ce que c'est qu'une petite poule rousse, qu'ils ne savent pas du tout ce que c'est qu'une petite poule rousse, parce qu'ils viennent d'un pays où il n'y a pas de petite poule rousse, etc., etc. Moi, j'ai pris un exemple un peu basique. En tout état de cause, il y a deux univers qui sont confrontés. L'univers de sens qui est porté par les mots, qui va produire des images pour chacun des enfants qui seront différents. C'est pour ça que quand vous montrez les images après, vous stabilisez des choses, vous offrez les images de l'illustrateur ou de l'auteur. Et elles vont se confronter à ce que les enfants avaient imaginé eux-mêmes. Donc ils vont réagister. Soit ils vont comprendre des choses, soit ils vont modifier ce qu'ils avaient compris, soit les images vont les emmener carrément ailleurs. Parce que vous savez que beaucoup d'illustrateurs, dans l'image, apportent autre chose que ce qu'il y a dans le texte. Une image, c'est rarement redondant par rapport au texte. C'est souvent complémentaire. Et c'est un univers en plus pictural et graphique, à l'image aussi. Donc, en définitive, le fait qu'on puisse s'approprier par l'écriture les mots construit aussi une représentation des mots qui est extrêmement essentielle, avec du temps, on se pose, qui est beaucoup plus, j'allais dire, structurante que l'image, vous l'avez compris, et bien sûr, beaucoup plus structurante que l'oral qui ne fait que passer, hein, les paroles, les paroles. Alors, les enfants sont beaucoup versés dans de l'oral, ils ont besoin de se poser dans l'écrit. En écrivant, c'est du langage qu'on s'approprie pour soi, mais aussi le langage qui permet la communication avec d'autres. Par exemple, on a des correspondants, on correspond avec une classe, et on a envie en fait de leur envoyer un message sur la fête qu'on a de carnaval, qu'on a invité vendredi après-midi. Et bien là, il va falloir écrire les choses. Et là, pour le coup, il va falloir mettre en mots. Il y a plusieurs manières de fabriquer ce message. La première, c'est celle qui existe dans une technique qui existe depuis 1992. Dans le petit livret qui s'appelait « La maîtrise de la langue à l'école », qui est un livret format italien, on vous parle de la dictée à l'adulte. On a toujours développé la dictée à l'adulte à l'école maternelle. C'est toujours d'actualité, hein. Sauf qu'il faut qu'on s'entende bien ce que c'est qu'un dictée à l'adulte et comment on fait et à quoi ça sert. La dictée à l'adulte, petite section, moyenne section, grande section, dans toutes les sections de l'école maternelle, mais de manière adaptée. Alors comment on fait pour la dictée à l'adulte? Pour que ce soit une production de texte qui permette aux élèves, un, de comprendre qu'on élabore un message avec des idées. Donc il faut déjà chercher des idées, il faut avoir des idées. Qu'est-ce qu'il faut qu'on dise, qu'est-ce qu'on va leur raconter, qu'est-ce qu'il faut qu'on oublie, c'est une lettre. Donc il y a des codes sociaux aussi. Une lettre, en général, ça veut dire une date, ça veut dire une entrée, ça veut dire une signature, hein, des expéditeurs, un destinataire, des expéditeurs. Donc tout ça, c'est des codes sociaux. Hein. Mais c'est l'école qui apprend tout ça, vous voyez, par le biais de projets, on est dans le projet. Hein. Ça veut dire qu'ils doivent comprendre, en fait, les élèves, que cet écrit va répondre à un certain nombre d'objectifs. Comme il va falloir qu'on ait des idées pour transmettre et communiquer ce qu'on a à dire, il va falloir d'abord donner toutes ces idées. Donc le maître, sur le tableau blanc, le tableau d'abord, ou bien le tableau, il dit, nous allons réaliser, nous allons faire la lettre aux correspondants pour leur expliquer notre votre projet de vendredi, votre projet du carnaval. Et là, il pose la situation, il donne les finalités, et il dit, qu'est-ce qu'on va leur dire? C'est lui qui écrit, c'est l'expert. Hein. C'est l'expert scripteur et l'expert écrivain, si je puis dire, c'est le même. C'est pas les enfants. Les enfants, ils sont en train d'apprendre à parler, ils sont en train d'apprendre à comprendre ce que ça veut dire qu'écrire. Hein. Donc on ne peut pas leur demander de faire des phrases qui vont tout de suite pouvoir être écrites comme ça. Hein. Ça, je crois pas beaucoup, mais ça marche pas beaucoup. Donc ça veut dire que le maître dit, donnez-moi vos idées, je les note, prise de notes. Eh bien, il ne faut pas oublier, par exemple, de parler des déguisements et du carnaval quand on est allé dans la rue. Donc, on prend toutes ces idées-là et il les marque, ces idées-là, sous le regard des enfants. Il fait, en fait, une espèce de fiche mémoire de tout ce qui se dit. Et à un moment, il va dire, attendez, maintenant, il faut mettre en forme. Alors, une lettre, ça commence comme quoi? Comment ça commence? Donc, si on ne sait pas, on va voir peut-être la lettre qu'on a reçue. En général, quand ils ont le fond de correspondance, ils savent comment ça fonctionne une lettre. Hein. Ou bien ben, le maître, qui est un bon pédagogue, qui est rusé, a une lettre type sous la main. Il dit, ben voilà, je vais vous lire, par exemple, cette lettre, vous allez me dire par quoi ça commence, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier. Donc petit à petit, on va rentrer dans les codes de l'écrit, de cet écrit spécifique, et on va élaborer les phrases les unes après les autres. Et donc, le maître relit les idées. Et il dit, ben, tu vois, toi, Juliette, tu as dit tout à l'heure, donc il relit les idées, on a mis les masques et on est allé dans la rue et on a rencontré des gens. Voilà ce que j'ai noté. C'est bien les idées, je ne peux pas les faire comme ça. D'abord, je vais modifier des choses. Qu'est-ce que je vais modifier? Là, j'ai trois séquences qui sont des séquences orales. On a. Donc il va falloir déjà structurer. Et il va falloir peut-être aussi transformer le « on » en « nous », si on a pensé que je le faire. Parce qu'il faut petit à petit faire comprendre aux enfants qu'on parle, mais que la manière dont on parle ne s'écrit pas forcément. Et qu'il y a des transformations à faire quand on passe à l'écrit. Parce que la langue écrite répond à des codes qui ne sont pas ceux de la langue orale. La dictée à l'adulte, ça sert à faire ça. Ça sert à comprendre qu'il faut des idées, il faut... les écrire et les exprimer hein, pour qu'elles émergent, ces idées, et qu'après il y a une mise en forme qui passe par un certain nombre de codes. Et c'est le maître qui filtre tout ça, c'est l'enseignant qui filtre tout ça. C'est lui qui dit ce qu'il fait quand il modifie. Non, on ne peut pas le dire comme ça. Voilà ce que je vous propose. Nous avons mis nos masques. Point. Après la deuxième idée. Alors, est-ce qu'on met un petit mot comme ensuite? Est-ce qu'on met là? Donc, en fait, il élabore petit à petit. Il va relire ce qui a été élaboré. Il va demander aux enfants si ça leur convient. C'est ça qu'on voulait dire. Toutes les idées sont là. C'est bon, ça vous paraît bon? Et ce mot-là? Les enfants vont avoir des choses à dire là-dessus. Les élèves disent des choses. Et s'il y a des corrections, il va corriger. Il va dire, ça je bats, c'est en trop. Donc tu as proposé ça, je modifie. Donc c'est du brouillon. Les élèves voient l'enseignant en train d'élaborer l'écrit. Quand on regarde les brouillons des écrivains, que ce soit Proust, Dumas, Victor Hugo, ne soyons pas gênés. Il y a eu X versions avant d'arriver au chef-d'œuvre. Il faut que les enfants, les élèves se mettent là-dedans. Avant d'avoir un écrit qui tienne debout, il faut travailler dessus. Il faut ajuster, corriger, déplacer, etc. C'est du travail, l'écrit, c'est du travail. Et du travail intellectuel, hein. Là, on est au-delà de la trace graphique, hein. C'est comment je fabrique en fait un message. Et puis à un moment, on va relire tout ce qui a été écrit, et là, il y aura validation. Mais c'est le maître hein, qui a permis effectivement cette compréhension-là. Alors, la culture de l'écrit, je vais finir par ça, pour vous laisser un petit peu la parole. Bon, ça veut dire que bien sûr, le milieu scolaire, le milieu de l'école est un milieu chargé d'écrit. On parle souvent des affichages, de la qualité des affichages. Peut-être que vous avez un petit paragraphe comme ça dans mon rapport d'inspection. Alors pourquoi c'est important que l'école soit un milieu porteur d'écrit? Un, parce que l'écrit doit être présenté aux enfants comme étant absolument indispensable pour se repérer dans notre monde. Hein, c'est un passage obligé. Jacques Goody, qui est un anthropologue, a écrit les société sont des sociétés scripturaires, il insiste sur le fait que notre organisation mentale, la manière dont on pense, est complètement liée au fait que nous sommes dans des sociétés de l'écrit. Les sociétés qui ne sont que dans l'oral, il en reste encore quelques-unes, ne structurent pas leur manière de penser le monde de la même manière qu'eux. Et nous, on est, nous, notre génération, nous, peut-être pas pour nos enfants, nos petits-enfants, on est structurés par la chronologie et la logique des livres, hein, gauche-droite. Les enfants qui, les ados, les plus jeunes qui sont sur Internet et qui sont beaucoup sur culture d'écran, ils sont plus structurés comme ça. Ils sont structurés par réseau-fenêtre. On les voit, hein, les enfants qui ont d'autres logiques. Ça, il faut le prendre en compte. Nous, on continue à structurer avec le livre. C'est pour ça que je vous parlais des objets livres tout à l'heure. Moi, tant que je ferai ce métier, même si j'utilise des pads, même si j'utilise des phones, des pods, tout ce que vous voulez, parce que je suis parfaitement à l'aise avec l'écrit, tout type d'écrit, tout support d'écrit, pour les élèves, pour les enfants, c'est pas la même chose. En tout état de cause, pour moi, le livre est le cœur de la construction des apprentissages, le livre. Même si on leur donne des cartables numériques en arrivant au collège, de toute façon, il y a un rapport au livre qui est essentiel. Et vous voyez, quand je regarde le fonctionnement des pads, ça m'a fait plaisir. Le iPad, c'est Apple, hein, c'est la fameuse tablette dont la deuxième génération arrive. On tourne les pages. C'est avec le dos. Je trouve que c'est intéressant. Donc on retrouve la logique en fait du livre. Sauf que c'est dématérialisé. Alors moi je trouve ça assez chiant, parce que moi je suis une grande consommatrice de livres bouquins, enfin des objets. J'aime bien lire sur la Pléiade, par exemple. J'aime bien avoir de grands livres en main, etc. Mais nos enfants, nos élèves n'auront plus ça. Je ne suis pas sûre. Ils auront des bibliothèques numériques. Quoi qu'il en soit à l'école, donc les affichages, ça sert effectivement à donner de l'importance à l'écrit. Un écrit indispensable, les écrits fonctionnels par exemple. On peut très bien expliquer aux enfants que, par exemple, les règles de vie, elles sont écrites parce que si elles sont écrites, on peut s'y référer. Et par exemple, s'il y a un problème dans la cour de récréation et qu'on reprend la lecture des règles de vie, eh bien c'est le référent de tout le monde, on partage tout. C'est pas moi uniquement, la maîtresse, qui dit que, et ça peut varier d'un jour à l'autre, c'est là qu'est le table de la loi. L'écrit reste et fait référence pour tous. Alors, on peut travailler la culture de l'écrit autour de l'apprentissage de l'écriture, au moment où les enfants commencent à apprendre ce geste difficile, fatigant, vous l'avez bien compris, qui quelquefois leur fait tirer la langue, et qui quelquefois les fait transpirer, ou leur dit « Oh là là, qu'est-ce que j'ai mal à la main ? Oh, j'ai mal à la main !» Travailler les aspects esthétiques et plastiques, c'est leur faire découvrir la richesse de cette culture. Alors on peut travailler les lettres ornées, c'est les fameuses petites lettrines de l'écriture du Moyen-Âge, hein, des moines copistes. Et on peut regarder d'ailleurs avec les élèves, vous pouvez trouver ça sur internet, il y en a, hein. On peut aller voir comment écrivaient les moines copistes, hein, quel type d'écriture ils avaient, hein, qui est une écriture très, très génétique, hein, très, très manuelle pour le coup. Hein. On peut s'amuser à orner des lettres aussi, hein. Et fabriquer des alphabets rigolos, en fait, dans les classes, j'en ai vu. Hein. Travailler la calligraphie, soit par le biais de calligraphie orientale, soit par le biais de calligraphie étrangère. Par exemple, on a des petits chinois dans la classe, ou des enfants d'origine étrangère, demander aux parents, en définitive, de rapporter des écrits dans la langue de ces enfants-là, et faire de la copie graphique. On ne va pas travailler sur le sens, on est sur les aspects esthétiques, hein, de la copie graphique, et travailler avec des gros pinceaux japonais, avec les pinceaux à réservoir, vous savez ce qu'utilisait Pierre Alechensky, ce peintre qui a beaucoup développé la calligraphie. Les calligrammes, qui sont des petits poèmes utilisant des lettres, vous avez ça aussi sur internet, hein, jeu sur la lettre. Des abécédaires, c'est très important de construire des abécédaires à l'école maternelle. Parce que vous donnez un statut particulier à ces lettres. Et ça permet aussi de les mémoriser pour certains enfants. Les calligrammes, qui sont des petits poèmes utilisant des lettres, vous avez ça aussi sur internet, hein, jeu sur la lettre. Des abécédaires, c'est très important de construire des abécédaires à l'école maternelle. Parce que vous donnez un statut particulier à ces lettres. Et ça permet aussi de les mémoriser pour certains enfants. Vous pouvez vous amuser avec les tampons, hein, dans vos classes. fabriquer en fait des animaux en tamponnant de manière particulière. Enfin, faites travailler l'imaginaire des enfants. Hein. Recouvrir d'écrits un objet qu'on a fabriqué, en découpant en fait des écrits qu'on va coller dans différents sens. Faire aussi peut-être, c'est intéressant, si vous faites de la correspondance, des envois en utilisant la technique du mail art. Le mail art est une technique qui permet en fait de travailler la forme de la lettre et les enveloppes sont décorées, sont enrichies. Donc c'est un objet plastique en fait qui transporte un message, hein, ça voyage, hein, une enveloppe de mail art. Et qui permet de travailler en fait la question de la présentation de la lettre. Vous pouvez transférer bien sûr, vous inspirer de toutes les démarches artistiques, il y en a plein. Donner une culture de l'écrit, c'est aussi aborder des éléments d'histoire de l'écriture. La première trace écrite, c'est la main, hein, sur la caverne. Altamira, sur Altamira, je sais plus. Il y avait peut-être que des animaux. Mais en tout état de cause, j'allais retrouver ça. Et puis après, c'est les écrits qui ont jalonné en fait l'histoire de notre civilisation, hein, en passant par les scribes, les moines copistes, les enseignes au Moyen Âge, la découverte de l'imprimerie. On peut expliquer aux élèves ce que c'est. Dans certaines classes, on trouve encore des petites imprimeries de la méthode Freinet. J'adore ça, quand on retrouve ça, j'adore. Moi, vous avez des lettres Lego qui existent maintenant aussi. Hein. Vous les trouvez plus? Les lettres Lego n'existent plus. Et qu'est-ce qu'on peut trouver pour mettre une petite imprimerie dans la classe? Elles sont pas ressorties.
Non.
Parce que c'est intéressant de montrer aux enfants comment on composait un mot lettre à lettre. Puis en plus, on travaille en miroir. Hein. Donc, il faut travailler en fait aussi la composition dans la perspective de faire une empreinte. C'est drôlement intéressant. L'écriture, c'est aussi l'histoire d'une évolution, celle du langage humain. On a une petite calligraphie.